Tous les dépôts et comptoirs de vente des minerais tenus par les étrangers sont fermés depuis jeudi dans la cité minière de Kambove au Katanga. Certains propriétaires de ces dépôts non en règle avec l'immigration ont été arrêtés. La troisième phase du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en Ituri a enregistré plus de 3000 combattants des groupes armés. Hier, date limite, 400 nouveaux se sont fait enregistrer. L'université de Mbujimayi à bout de souffle, la MIBA, sa principale source de survie, est en difficulté comme on le sait. Le conseil d'administration de cette université appelle le gouvernement central et les autorités provinciales à apporter leur soutien financier pour éviter sa fermeture. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Une dizaine de dépôts et comptoirs de vente de minerais tenus par les étrangers sont fermés depuis jeudi dans la cité minière de Kambove, à 30 km de Likasi, au Katanga. D'après le directeur de siège de la GKMine à Kambove, cette décision des autorités provinciales vise à rétablir la GKMine dans ses droits. Certains propriétaires de ces dépôts, nous l'avons dit en titre, qui sont pour la plupart des sujets chinois, ont été arrêtés parce que beaucoup ne sont pas en règle avec les services de l'immigration. Le point avec Donat Chimbouge.
Ils sont au total 14 ces dépôts et comptoirs, tous tenus par des étrangers. D'après les témoins, la population qui attendait les gouverneurs a été surprise par l'arrivée d'une forte délégation mixte police-DGM. Immédiatement, ils ont procédé à la fermeture des dépôts. Trois policiers et un garde industriel de la GKMine sont désormais placés devant chaque dépôt. Selon M. Ramazani Moulinda, directeur de siège à la GKMine Kambove, les autorités politico-administratives répondent aux plaintes de son entreprise. Pour la GKMine, les produits vendus dans ces comptoirs sont volés dans ces installations. Elle attend qu'ils lui soient restitués. Des témoins jeunes sur place affirment que les éléments de la Direction générale des migrations procèdent pour leur part au contrôle des papiers de tous les étrangers détenteurs des dépôts. La plupart d'entre eux se cachent et sont invisibles à Kambove. D'autres ont été arrêtés et acheminés à Likasi. Leur nombre est encore inconnu. Les créseurs artisanaux n'apprécient guère la fermeture de ces dépôts. Ils craignent de perdre leurs produits qui y sont bloqués. Lubumbashi, Donat Chimbouge, Radio Okapi.
L'exploitation et la commercialisation du diamant ne contribuent pas au développement économique et social de la province orientale. C'est la conclusion d'un rapport de l'ONG Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire Sénadep en sigle. Ce rapport a fait l'objet d'un atelier de 3 jours organisé à l'intention des créseurs et quelques membres de la société civile. Jeudi dernier, au terme de ces assises, quelques recommandations ont été formulées pour l'amélioration des conditions de travail des creuseurs, notamment l'installation d'une coopérative pour la défense de leurs droits. L'hôtel de ville de Kinshasa a lancé hier les activités du comité de pilotage de mobilisation des recettes urbaines. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, ce comité va permettre à son administration d'avoir la maîtrise des recettes qui à l'heure actuelle constituent 20% du budget de la ville. Pour le coordonnateur du comité de pilotage de mobilisation des recettes urbaines de Kinshasa, la réussite de ce projet repose sur l'instauration des guichets mobiles des banques commerciales dans les différents marchés de la ville de Kinshasa. Magloire Kabemba Okanda au micro de René Capita.
C'est vrai qu'il se pose un réel problème d'évasion des recettes par le passé et peut-être encore actuellement. Ce sont les agents qui perçoivent, qui manipulent les recettes avec tous les risques que cela comporte. Mais avec le comité de pilotage, nous voudrions que partout, même au niveau des marchés, que dans les communes, partout où on perçoit une recette de la ville, que soit installé un guichet mobile d'une banque commerciale. De façon à ce que quand la recette est perçue, directement la recette tombe dans la caisse de la banque et à la fin de la journée, c'est l'équipe de la banque qui ramène les fonds vers le siège. Ça nous permettrait d'avoir une maîtrise de toutes nos recettes. Comme les sportifs le disent, nous tiendrons à la culotte les services générateurs des recettes.
En Ituri, 400 combattants, nouveaux candidats à la troisième phase du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, se sont fait enregistrer et ont déposé leur matériel de guerre. Hier, c'était à l'occasion du dernier jour d'échéance accordé aux groupes armés pour déposer les listes de leurs combattants respectifs à ce nouveau programme. Sur place, à Bounia, le comité de suivi des opérations indique avoir reçu jusqu'à ce jour les noms de plus de 3000 combattants sur les listes qui ont été présentées par les leaders des groupes armés. Ces derniers regrettent cependant de n'avoir pas eu assez de moyens pour atteindre beaucoup d'autres de leurs hommes éparpillés dans les régions de l'Ituri. Explication avec Jean-Claude Bissili-Abo.
Les 400 combattants qui se sont présentés jusque-là ont déjà rendu 274 armes du type AK-47, une vingtaine d'autres armes d'appui, des grenades et munitions, ainsi que 68 radios talkie-walkie. Selon les chargés des opérations de ces programmes auprès du PNUD à Ituri, les combattants déjà désarmés quitteront les sites pour retourner dans leurs milieux respectifs dès ce samedi pour la suite du programme. Contacté ce vendredi, le leader des groupes armés du MRC et du FNI déclare que la logistique suffisante n'a pas été mise à leur disposition pour atteindre tous leurs combattants éparpillés en brousse. Une préoccupation rejetée par le bureau du PNUD à Ituri. Ce bureau indique avoir mis tous les moyens à la disposition des leaders des groupes armés, notamment le carburant et la mobilité pour sensibiliser et atteindre leurs combattants. La même source reconnaît toutefois avoir strictement respecté les principes « un homme, une arme » depuis l'ouverture de points de désarmement le 4 août dernier. Notons que la fin de l'opération de désarmement pour cette troisième phase est prévue pour la fin du mois de septembre. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Pillage des ressources naturelles du Congo, sept gorilles de montagne abattus sans raison apparente au cours des deux derniers mois dans le parc national de Virunga au nord Kivu. Une mission conjointe d'urgence des organisations internationales est allée évaluer la situation sur terrain. Il s'agit de l'UNESCO, du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Elles se disent extrêmement préoccupées par ces actes criminels qui pillent et détruisent les ressources et les richesses naturelles de la RDC. Le massacre des gorilles des montagnes, disent-elles, pourrait avoir des conséquences néfastes pour le développement durable de la région. La MONUC, de son côté, va prêter l'assistance logistique possible à cette mission d'évaluation en cours. Une institution nationale des droits de l'homme pour notre pays, les ONG de la province orientale, appellent les députés et sénateurs de cette province à accélérer, sinon précipiter, le processus d'adoption d'une loi organique portant création d'une institution nationale des droits de l'homme. Ces organisations ont émis ce vœu jeudi dernier à l'issue d'un atelier organisé à Kisangani. C'était par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les explications avec vous, José Deschartes Menga.
Une quarantaine d'activistes des droits de l'homme se sont regroupés dans les installations de la MONUC pour réfléchir sur l'avant-proposition de loi portant création d'une institution nationale des droits de l'homme. À l'issue de travaux, plusieurs amendements ont été apportés à ce texte. Pour que cette loi organique soit une réalité, il faut l'implication des législateurs. L'appel des participants est lancé par leurs représentants, M. Pierre Kibaka.
Que les députés élus de la province orientale comme les sénateurs puissent s'engager individuellement et collectivement à ce qu'ils endossent cet avant-projet de loi au niveau du Parlement pour qu'il puisse le déposer au sein du bureau du Parlement pour que son adoption ait lieu dans la prochaine session.
Le vice-gouverneur de province qui a clôturé ses travaux estime qu'il est plus qu'important que notre pays se dote d'une institution chargée des droits de l'homme. Joseph Bangakia justifie sa position.
Les droits de l'homme sont devenus un élément fondamental des relations internationales. Parfois, c'est même lié à l'aide au développement, au transfert de technologies. Il aurait fallu que notre pays puisse mettre tous les atouts de son côté en mettant en place dans la Constitution, une institution forte chargée de protéger les droits de l'homme dans notre pays.
Rappelons que l'Observatoire national des droits de l'homme, ONDH, n'existait plus. Cette institution citoyenne n'avait été créée que pour le temps de la transition, d'où la nécessité, selon les ONG, à mobiliser tous les efforts afin que notre pays se dote d'une institution nationale des droits de l'homme. Kisangani, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Dans la province du Bandundu, le tribunal militaire de garnison de Kikwit, siégeant en chambre foraine à Kaemba, a condamné à mort trois policiers. Ils sont auteurs de la mort d'un mécanicien réparateur de moto, mort intervenu trois jours après que ce dernier a été torturé dans la prison de Kaemba. Le reportage sur la décision du tribunal avec Fabien Kambinzi.
Le verdict est tombé juste hier jeudi après trois jours d'audience. Le prévenu sous-commissaire adjoint Kabamba Moussangi Sébastien et deux agents de la police judiciaire Belesi Mbaloko et Bibeki Mouzeni ont été condamnés à la peine de mort pour arrestation arbitraire et détention illégale agréée. Un sous-commissaire adjoint a été dégradé et un civil renvoyé devant le tribunal de grande instance de Kenge pour s'occuper de son affaire. Pour rappel, le sous-commissaire adjoint Kabamba Moussangi Sébassé et ses deux agents de la police judiciaire, tous Emba, avaient arrêté arbitrairement et détenu illégalement M. Kachamatenia alias réparateur robiné, où il est décédé trois jours après à la suite des tortures. La population en colère avait saccagé toute la prison et la maison du directeur de cette prison. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
L'Institut supérieur de technique médicale Bandundu vient de se doter de ses propres infrastructures. Deux bâtiments d'une capacité d'accueil de 650 étudiants viennent d'être érigés sur le site de cette institution publique grâce aux efforts locaux. Cela après une bonne dizaine d'années de fonctionnement en tant que locataire. Le directeur général de l'ISTEM Bandundu se félicite d'avoir gagné le pari de la prise en charge au lieu de toujours attendre la manne du gouvernement. Le professeur Moubadi Ntsoule Mwanantsuka, directeur général de l'ISTEM, au micro de Basile Bakumbani.
Nous avons commencé par la construction de deux grands bâtiments avec nos moyens propres. Nous n'avons pas voulu attendre tout le gouvernement. Cette réalisation est le résultat des efforts conjugués du comité de gestion de l'ISTEM Bandundu et des parents d'étudiants. L'année académique va débuter le 15 octobre 2007 et nous ne serons plus locataires. Ça va faire gagner à l'ISTEM une somme de $900 que nous dépensons chaque mois pour les loyers. Cet argent va maintenant servir à augmenter la prime du personnel. Avec la volonté et la détermination, tout est possible. On évoque toujours les raisons d'argent, mais je crois que les étudiants, avec ce qu'ils donnent, il y a toujours moyen de s'organiser pour doter nos établissements respectifs de ses propres infrastructures au lieu d'attendre tout le gouvernement.
Professeur Moubadi Ntsoule Mwanantsuka, directeur général de l'ISTEM Bandundu, était au micro de Basile Bakumbane qui nous fait savoir que le coût total de cette première réalisation s'élève à près de $30,000. Notons que grâce à ce premier résultat, plusieurs voix s'élèvent pour appuyer cette action. C'est le cas du gouvernorat de province qui vient de donner 50 sacs de ciment et 100 tôles comme contribution pour les autres constructions sur le site de l'ISTEM Bandundu. Au Kassai Oriental, le conseil d'administration de l'université de Mbujimayi vient de prendre une série de mesures pour mobiliser de nouvelles ressources. Dans une déclaration rendue publique jeudi soir, le conseil d'administration appelle le gouvernement central et les autorités provinciales à apporter leur appui financier pour éviter la fermeture de cette institution qui ne peut se reposer seulement sur la MIBA, qui bat de l'aile, on le sait aussi. Plus de détails dans ce reportage de Nikem Poutou.
Le problème fondamental de la crise au sein de l'université de Mbujimayi est celui du financement. Financement qui provenait à 80% de la MIBA, principale contributrice. Michel Aubert, président du conseil d'administration, a indiqué que la MIBA n'est plus en mesure de supporter à elle seule 80% du budget de cette institution. Autre mesure du conseil d'administration, la présentation par le comité de gestion intérimaire, désigné jeudi dernier, d'un plan de crise comprenant toutes les solutions de financement dont les subsides des pouvoirs publics, les activités génératrices de recettes et la mobilisation des amis de l'université. Pour sortir de la crise, le conseil d'administration propose également la création d'une ASBL, fondation de l'université, permettant de collecter les dons et de contrôler leur utilisation correcte. Notons que cette série de mesures n'est qu'une conséquence des manifestations des étudiants de l'université de Mbujimayi. Ces étudiants réclamaient le limogeage du comité de gestion, comité qu'ils accusaient de mauvaise gestion et d'incompétence. Mbujimayi, Nikem Poutou, Radio Okapi.
À Kinshasa, des adolescents pour sensibiliser d'autres adolescents. C'est une initiative du réseau des associations congolaises des jeunes contre le sida RACO Jean Sigle, en collaboration avec l'UNICEF. Ce réseau organise des journées citoyennes, des journées de sensibilisation aux responsabilités dans la société. Hier, une centaine d'adolescents de Kinshasa ont été sensibilisés sur des problèmes liés au VIH-Sida. C'était dans une kermesse qui se tient au complexe scolaire Saint-Raphaël à Limété. Le coordinateur de Rakoge Sida, Trésor Kassia, parle des objectifs de ces journées de mobilisation. Il est au micro de Babel Mpongo.
Ces journées citoyennes ont été organisées pour occuper utilement les adolescents des quartiers défavorisés de Kinshasa. Vous savez, la promiscuité dans les ménages conjuguée à la rareté d'espaces ludiques n'offre aucune perspective aux adolescents en termes d'apprentissage, d'épanouissement. Nous avons voulu aussi lancer officiellement la campagne de démultiplication de la formation des adolescents sur les compétences de vie courante. C'est des compétences psychosociales qui permettent aux adolescents de participer activement et efficacement au développement de leur communauté, mais surtout de se préserver face aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment le VIH-Sida. Il y a aussi les compétences en tant que telles. Il y a l'empathie qui permet aux jeunes de comprendre les problèmes des autres. La communication efficace qui devrait permettre aux adolescents de communiquer. La gestion des relations interpersonnelles. La capacité de résister à la pression négative des pères qui ont été abordés. Ces adolescents formés vont effectuer la démultiplication auprès de leurs pères.
Arrivé hier soir à Brazzaville de la dépouille mortelle de l'ancien premier ministre du Congo-Brazzaville, André Nilongo, il est décédé le mois dernier en France. Des foules immenses, munies de lampes allumées de palmes, se sont massées le long de l'avenue de l'aéroport jusqu'à Mafuta dans la banlieue sud de Brazzaville, où habitait le disparu. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a été accueilli en héros à l'ouverture du sommet annuel de l'Afrique australe jeudi à Lusaka, où la crise qui affecte son pays domine l'ordre du jour. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a été plus sévère vis-à-vis du président angolais Eduardo dos Santos en demandant l'organisation d'élections démocratiques en Angola, seul pays de la région à ne pas avoir mené à terme un tel scrutin depuis son indépendance en 1975.